Alors, on entendait tout à l'heure que le chemin était difficile, qu'il pouvait être compliqué, mais je crois que le chemin que Dieu a pour nous, qu'il a prévu pour nous, est un chemin facile. Dans le sens où, en fait, ce qu'il a prévu pour nous, si nos cœurs veulent bien le suivre, suivre ses commandements, suivre ses conseils, c'est un chemin facile, tranquille. C'est vrai qu'il n'est pas large. C'est vrai qu'il n'est pas large. Il est étroit. On passe par la porte, mais après, c'est grand ouvert. Après, il y a de la nourriture en abondance. Donc, si on reste sur ce chemin, si on suit le conseil de Dieu, par rapport à ce chemin, à cette marche tranquille, alors le chemin devient facile. Mais c'est parce que nos cœurs ne sont pas disposés à suivre ce que Dieu veut réellement nous donner, nous faire vivre, que le chemin est compliqué, qu'il est difficile. Donc, on puisse entrer dans cette vraie liberté avec Dieu. Et on va parler de ces choses ce matin. On va tout de suite ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, au verset 25. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est bon de lire l'évangile, c'est bon de toujours aller vers l'évangile, c'est la source. Chapitre 11 de Matthieu, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père ». Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu en as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ça, c'est les promesses de Jésus. C'est léger. Mais est-ce que l'on veut être dans ces sentiers-là? Est-ce que l'on veut effectivement être comme lui? Quelles sont ces luttes qui agissent dans nos cœurs? C'est parce que, dans le monde, les valeurs sont complètement inversées. Les valeurs de Dieu, les valeurs du ciel, de la gloire, sont complètement l'inverse de celles qui sont sur cette terre. Et c'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous dérange. C'est qu'on voudrait vivre comme le monde, comme ceux du dehors, mais on est du dedans. On est du ciel, on n'est pas du monde. Donc forcément, il y a un combat, il y a une lutte. Mais si on veut prendre, comme Jésus nous y incite, son joug sur nous, ses conseils sur nous, ses instructions, recevoir ses instructions. Je suis doux et humble de cœur. Je n'ai pas de place dans ce monde, mais je suis doux et humble de cœur. Alors oui, là on trouvera du repos pour nos âmes. Le monde regarde vers les puissants, les célèbres. Hein. On voit que ça. Les plus forts. Et pourtant, lui, Dieu, a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, pour confondre les fortes. Le monde regarde, et nos cœurs et nos yeux regardent au plus grand. Et on retrouve dans le livre de Samuel, Samuel qui va pour oindre ce roi pour Israël, celui qui avait choisi l'Éternel, et puis il voit Eliab. Eliab, il dépassait tout le monde d'une tête, le plus grand, certainement loin de l'Éternel et là devant lui. Et en fait, l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et il avait choisi le petit dernier, le petit David, qui n'était même pas dans la maison, parce que son père, Isaïe, considérait que ce n'était certainement pas lui qui allait être loin. Mais c'était pourtant lui. Le monde regarde à ce qui brille, ce qui attire le regard, l'œil. Et pourtant, Jésus est venu, on trouve ça dans le livre d'Ésaïe, il n'avait ni beauté ni éclat. Ce n'était pas un surhomme, ce n'était pas quelqu'un de très joli. Un jour, j'avais prêché comme ça et il y avait une sœur qui était venue me voir. « Ah oui, mais tu n'as pas le droit de dire que Jésus n'était pas beau. » Mais c'était un homme comme tout le monde. Il n'avait rien, il n'avait pas une beauté exceptionnelle. Et ça, j'en suis sûr. Si, sur la montagne de la Transfiguration, là, il a fait voir sa gloire, là, ses disciples. Mais sinon, c'était un homme quelconque, il est passé comme ça, quelconque. Sinon, il aurait été invité par les rois, il aurait été dans les palais des rois. Mais non, il était là, quelconque, ni beauté, ni éclat, et pourtant c'est le plus beau des fils de l'homme aux yeux de Dieu. Le monde regarde à ce qui a une valeur, surtout en argent. Alors ça, qu'est-ce qu'on regarde à ça? Et pourtant, lui qui était riche, qui avait toute chose, le monde a été fait pour lui, par lui, il a vécu dans la pauvreté, afin que par sa pauvreté, il s'est rendu pauvre, nous, nous soyons enrichis. Ça, c'est le regard de Dieu, c'est la démarche de Dieu. Et c'est vrai que si on regarde la création de Dieu, hein, tout dans la nature nous parle d'un Dieu qui se cache, d'un Dieu qui est là dans l'ombre, d'un Dieu qui fait son œuvre dans le secret. Et toutes les choses que l'on peut regarder, hein, même les petites choses, les petits êtres, les petits animaux qui sont là, ont chacun leur place. Ils ont chacun une place bien définie. Ils restent à leur place, mais leur place est indispensable. Regardez les abeilles. Mais on peut descendre encore, les vers de terre, on ne les voit jamais, eux. Et pourtant, c'est le vivant en quantité qui est le plus important sur la terre. Les vers de terre, voilà, ils s'occupent de 50 cm de terre pour qu'elle soit fertile. Sinon, rien ne pousserait. C'est incroyable. On peut descendre encore, les acariens. On en a plein sur notre peau. Il y en a qui sont même allergiques, mais c'est indispensable. Sinon, on ne pourrait plus respirer. Puis on peut descendre encore pour la digestion, les bactéries. Voilà, c'est insignifiant, on ne les voit jamais. Sans bactéries, on ne peut pas vivre. C'est incroyable. Tout est caché, tout est là, mais tout à sa place. Et il y a une beauté dans la simplicité, une beauté dans l'utilité. Et c'est là où Dieu est merveilleux, où la création de Dieu est merveilleuse. Et ça vaut le coup de s'émerveiller sur ces petites choses. Moi, je sais, quand on se promène avec mon épouse, de temps en temps, je m'arrête et je regarde quelque chose qui paraît quelconque, mais ça m'a attiré l'œil parce que c'est tout simple. C'est vrai que parfois, dans les jardins, on va s'arrêter sur une rose. Alors, les roses, elles ont été fabriquées par les hommes. Et donc, effectivement, il y a toute une panoplie de pétales. C'est beau, c'est merveilleux. Et puis, de temps en temps, on se dit, c'est presque trop, quoi. Ça fait presque artificiel. Et alors que sur le bord des champs, on va trouver une petite fleur toute bête, presque une mauvaise herbe. Mais alors, quand vous regardez la petite fleur dans le détail, dans cette simplicité-là, il y a une harmonie parfaite. Les pétales sont juste le nombre, là. La couleur à l'intérieur, elle correspond à la couleur à l'extérieur. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, que l'on puisse regarder ces petites choses. Le regard et la nature de Dieu sont tout à fait opposés à l'esprit de ce monde. Ce qui est humble, heureux les humbles, ils hériteront la terre. Ce qui est doux, je suis doux et humble de cœur, c'est ce que l'on a lu. Et puis, ce qui est faible. Et ça, on peut regarder à nous-mêmes, c'est dans Corinthiens, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, nous, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant le Seigneur. Ça, c'est la démarche de Dieu. Dieu a envoyé un homme pour bouleverser le monde. Jésus a paru comme un simple homme, mais il a bouleversé le monde. On parle encore de Jésus, même les gens qui ne croient pas en lui parlent de lui. Tellement, en fait, ce message est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce message qui prend tout à contre-pied? Vous voulez être grand? Soyez petit. Vous voulez avoir la vie? Soyez prêt à mourir. Qu'est-ce que c'est que ce message? Et c'est pourtant ce que Dieu a voulu. La vie d'un homme, elle est comme une fleur. La Bible nous enseigne, elle se fane. Elle est comme la largeur de la paume de la main. C'est pas long. On est pour un temps, c'est un pèlerinage très court, l'éternité vient bientôt pour nous, pour les autres aussi malheureusement, parce que Dieu a donné la vie, il est juste, il la donne à tout le monde, et donc tout le monde héritera d'une vie éternelle, soit avec lui, soit loin de lui. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Et en fait, dans toutes ces choses que l'on voit, l'homme, on a l'impression qu'il essaye de s'élever, 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 Ils s'élèvent jusqu'à vouloir même changer la création de Dieu. On le voit avec ces manipulations qu'ils font là maintenant sur le vivant. Quelle folie! Alors que l'homme reconnaît que dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, ils ne connaissent que 10% de ce qui existe. Et ils inventent les 90% restants pour savoir un peu comment ça marche. Ça devrait les pousser à un petit peu d'humilité quand même. Un petit peu savoir quelle est leur place dans l'univers. Quand moi je regarde le ciel étoilé, ça va être bientôt les nuits là, des étoiles filantes et tout ça, je suis émerveillé, quoi. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu as fait quelque chose d'aussi grand pour nous? C'est incroyable. Bien sûr, il s'est fait plaisir pour lui aussi, mais c'est tellement grand. Et en fait, toutes ces choses devraient justement inciter l'homme. On voit bien l'humilité, l'humanité... Tout ça, toutes ces racines-là, ça vient de la même chose, du même mot, humus, qui vient de la terre, des choses basses, des choses d'en bas, contrairement à celles du ciel. Donc ça devrait justement les inciter à se rabaisser un petit peu. Et pourtant, on voit bien que dans le monde, donc que ça n'arrive pas chez nous, mais dans le monde, à chaque fois, c'est « je veux être le premier, je veux être le plus fort, je veux être le plus grand ». L'humilité, c'est quoi? C'est être pauvre, être sans éclat et s'abaisser volontairement. Et donc, si vous voulez bien, on va voir dans l'Évangile ces trois points-là. Et si on les suit, ces trois points-là, on va être heureux. Je peux vous dire, le chemin, il va être facile. Parce que c'est quand on veut être grand que c'est compliqué. C'est quand on veut être fort que c'est compliqué. Il faut faire de la musculation. Si vous ne voulez pas faire de musculation, c'est facile. Il suffit de marcher, tranquillement. Vous ne voulez pas être riche? Mais c'est facile de ne pas être riche. Vous avez votre salaire tranquillement, le Seigneur vous accorde ces choses et vous les donne jour après jour. Vous ne manquerez de rien, vous ne serez peut-être pas le plus riche, mais vous serez heureux. Les riches, eux, ont des soucis. Et je peux vous dire, ils vont en avoir. Incessamment sous peu, de gros soucis. Donc on va voir ces trois exemples dans l'Évangile. Le premier, et on va le lire ensemble, donc dans Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21, et au verset 1er. C'est un passage que j'apprécie particulièrement. Quel regard de Jésus. Luc, chapitre 21, verset 1er. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et j'imagine la scène, quoi. Il y avait ces gens, alors il y avait un tronc, c'est une grande caisse en bois qui était dans le temple, pour servir à l'entretien du temple, et il y avait une fente sur le milieu. Ça avait été non pas institué de Dieu, c'était les hommes qui avaient trouvé sa pratique. Donc ils avaient mis ça. Et en fait, j'imagine très bien ces riches essayant même de faire de la monnaie chez eux pour avoir le plus de pièces possible, pour que le sac paraisse le plus gros possible, voyez-vous? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Et quand ils arrivaient au temple, ils versaient au fur et à mesure pour qu'on entende bien le bruit. Voilà, et ça n'arrêtait pas de faire gling, gling, gling. Qu'est-ce qu'il donne celui-là? Qu'est-ce qu'il donne? Et puis cette pauvre veuve qui n'avait que deux petites pièces, qui était certainement la cachée derrière une colonnade du temple, et puis qui attendait son tour tranquillement, pendant que le bruit s'éloigne, et puis qui tout d'un coup, en fait, hop, elle vient mettre ses deux petites pièces. Et en fait, là, Jésus est là, parce que Dieu voit toute chose. Il connaît nos cœurs. Il voit toute chose. Et là, celle-là, elle n'a pas mis de son superflu. Elle n'a pas mis que 10% de ce qu'elle gagnait. Elle a tout mis, son nécessaire, ce qu'elle avait pour vivre, mais elle voulait, avec son tout petit, faire quelque chose pour Dieu. Elle voulait donner quelque chose à son Dieu. Elle était reconnaissante pour sa vie, elle était reconnaissante pour ce qu'elle avait, même si elle était pauvre, même si elle était veuve, même si elle n'avait plus rien. Mais elle voulait d'abord faire passer Dieu en premier. Et quel est le regard et le jugement de Jésus? Celle-là, elle a donné plus que tous les autres. Voilà ce que Dieu... Alors imaginez la récompense. Elle a donné plus que tous les autres, là, avec ses deux petites pièces. Imaginez la récompense dans le ciel pour cette pauvre veuve. Ce sera extraordinaire. Quelle maison, quel palais pour cette pauvre veuve. Et ça me rappelle une expérience que j'avais vécue à Vannes. On s'occupait d'un frère. Moi, j'étais jeune converti à l'époque. Et donc, on s'occupait des offrandes. Donc, on comptait les offrandes, comme certainement quelques frères vont le faire à chaque sortie de culte, là. Et puis, dans les offrandes, il y a des choses qui peuvent nous enseigner aussi, hein. Alors, je me rappelle de ces enveloppes qui étaient vides. On voulait paraître devant les hommes et on donnait à Dieu quelque chose de vide. Qu'est-ce que Jésus voit ? Comment peut-on agir ainsi ? Il faut mieux rien donner, mettez surtout pas d'enveloppe. C'est de la folie. Mentir à Dieu, comme Ananias et Saphira. Il y avait d'autres enveloppes, alors on trouvait des choses incroyables. On trouvait des jetons de téléphone, des pièces étrangères, c'était à l'époque du franc. Les choses qu'on ne se sert pas, alors on les donne à Dieu, quoi. C'est la brocante, quoi. On n'a plus besoin de ça, donc on va le donner à Dieu. Quelquefois, lui, ça puisse lui servir. Quelle folie. On ne se moque pas de Dieu. Il faut mieux rien donner. Il faut être vrai avec Dieu, il faut être droit, honnête. D'autres fois, c'est vrai, hein, pour des raisons pratiques, il y avait des chèques. Alors là, les chèques, c'est un petit peu comme les riches avec le tronc, ça, on met le nom, hein, c'est moi qui ai mis telle somme. Voilà. Donc le nom, il est en toutes lettres, on a beau essayer de ne pas regarder, bon, je dirais, c'est écrit en gros quand même, hein, sur un chèque. Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. C'est tellement plus simple quand c'est dans l'anonyme. Et puis, il y avait des enveloppes de temps en temps qui contenaient que quelques centimes. Et alors là, le frère, je me rappelle, ça le mettait hors de lui. Et puis moi, tout jeune converti, je me suis dit, mais écoute, imagine que ces quelques centimes, là, c'était quelques petites pièces, hein, c'était vraiment les petites pièces jaunes des francs de l'époque, hein, ça valait rien du tout. Imagine que ce soit la tirelire d'un petit enfant qui a cassé sa tirelire pour tout donner au Seigneur. Imagine. Et alors là, il était resté sans voix parce qu'effectivement, là, ce petit enfant, si ça avait été le cas, il avait tout donné, quoi. Tout ce qu'il avait. Quel prix devant Dieu. Donc que ces choses-là puissent nous permettre de toujours être droit, quoi. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc si on veut une vraie récompense, si on veut que le chemin il soit facile, si on veut que nos cœurs ils soient tranquilles, ils soient libres, ils soient affranchis, si on veut marcher la tête haute devant Dieu, oui Seigneur, je sais que je ne suis pas grand-chose, mais par contre, tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime, comme Pierre. Alors là, le chemin, il est facile. Il est facile. Tout dans la balance. Là, on le voit bien avec ce jeune garçon qui vient, il avait que son goûter, hein, les 5 pains d'orge et puis les 2 poissons. Il n'a pas dit, je vais peut-être en garder un pour moi, comme ça les 5000 personnes, ils auront les 4 et puis les 2, quoi. Ça devrait aller. Non, il a tout mis. Ils ont besoin de quelque chose, on met tout, tout le goûter. Et vous avez vu ce qu'il est resté ? 12 paniers. Ça vaut le coup de donner quelques pièces à Dieu. Ça vaut le coup parce que dans cette pièce-là, il y a une vraie fortune. Parce que lui, il n'est pas limité. Il y avait aussi cet exemple, j'avais entendu ça, ou j'avais lu ça dans un livre, un jeune des favelas qui s'était converti, et puis bien sûr, au Brésil, là, il était dans les favelas, il n'avait rien dans les bidonvilles, il n'avait rien. Et puis en fait, quand la corbeille est passe, c'était des grandes corbeilles là-bas, il se servait de grandes corbeilles, parce que chacun mettait un peu tout, pas forcément de l'argent, mais ça pouvait être aussi des choses en nature. Et puis ce jeune-là, il dit, mais Seigneur, j'ai rien à te donner. Alors il a pris la corbeille, il l'a posée par terre, il a mis ses 2 pieds dedans. Et Seigneur, moi je me donne tout entier à toi. Alléluia. Quelle vie, quelle offrande. Il y a pareil l'humilité à notre place, la bonne place. On va pouvoir le lire ensemble, c'est dans Matthieu, au chapitre 18, au verset 1er. On connaît bien hein, ce passage aussi. Matthieu, chapitre 18, verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alors dans le texte, là, c'est vraiment un tout petit enfant. Hein. Ce n'est pas un jeune homme, c'est pas... Non, c'est un enfant qui sait tout juste marcher. Voilà, donc les disciples voulaient savoir qui était le plus grand. Et il prend un petit enfant qui sait tout juste marcher. Il le place au milieu d'eux et dit, lui, si vous ne devenez comme ça, vous n'êtes pas les plus grands. Il faut devenir comme lui. Et dans cette place-là, savoir, hein, parce que c'est toujours un peu le piège, il y a toujours des places en hauteur, des places en vue, des choses comme ça, mais vous savez, dans un édifice, là, je ne sais pas en quoi c'est construit, peut-être en parpaing ou en pierre, mais chaque pierre, elle a sa place. Il n'y a pas une pierre qui soit inutile. Hein. Vous pouvez faire tout le tour, hein, si on enlevait les enduits, on verrait chaque pierre à sa place. Par contre, si une pierre manque, alors là, on verrait le trou. Là. Et là, on serait étonné, on dirait, là, il y a un trou. Et dans le corps de Christ, c'est la même chose. On est des pierres vivantes. Chaque pierre a sa place. Notre place, pas la place du voisin, pas la place de ma femme, de ma compagne, de mes amis. Non, ma place. Alors, ça peut être des pierres de fondation, hein, on ne les voit pas, mais elles sont indispensables. Pour le monde, il y a eu une pierre angulaire qui a été donnée par Dieu. Elle est indispensable. C'est sur elle que tout s'édifie. Et puis après, les autres pierres sont là et elles s'édifient dessus. Hein? Donc que l'on puisse chacun garder sa place. Notre place, elle est belle, elle est bonne. On n'a pas envié les dons prophétiques du voisin. On a reçu quelque chose de la part de Dieu. Manifestons-le. C'est notre place, c'est notre bonheur, c'est notre tranquillité. Et là, on va être heureux, c'est sûr. Vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père. Ça, on le trouve dans la religion. Combien de fois ils appellent père ? Très saint père, quelle folie. Alors que l'évangile nous dit, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Il n'y a pas de patron ici. Il n'y a qu'une tête et un corps. Le Christ, c'est lui seul qui est votre directeur. Le plus grand parmi vous, vous voulez être plus grand ? Sera votre serviteur. Alors oui, si on veut ça, oui, ça c'est un chemin aussi. Mais par contre, il faut l'accepter, quoi. Donc gardons notre place. Jésus est à la bonne place. Et puis pareil, l'humilité pour notre service aussi. Donc on va le voir donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 1er. C'est pareil, c'est un passage que l'on connaît bien. Mais on va essayer de faire attention aux choses que le Seigneur nous dit. Jean, chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Le maître, le serviteur. Et là, quel exemple de Jésus. On voit, il met le comble à son amour, hein, c'est le titre du paragraphe, il met le comble à son amour. Et dans ce geste-là, hein, on voit bien, hein, c'est le début du geste qui va l'emmener jusqu'à la croix. Il met le comble à son amour pour les siens, pour ceux qu'il a aimés dans le monde. Et puis juste après, on voit qu'à ce moment-là aussi, il sait déjà qu'il y a un traître, ça fait un petit moment qu'il le sait, il l'a choisi lui-même, mais il sait que c'est maintenant l'heure, que Judas va le trahir, et que Dieu a remis toutes choses entre ses mains. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus reçoit du Père toutes choses. Il sait que ça y est, tout est là, en son pouvoir. Comme un roi qui reçoit une onction, en quelque sorte, particulière, d'en haut, et qui sait que toute chose est entre ses mains. Et c'est ce moment-là qu'il choisit pour encore s'humilier. Il se déshabille comme un serviteur, il remet juste une serviette autour de ses reins, et il remplit un bassin d'eau, et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. C'est à ce moment-là où il sait qu'il a reçu toute chose de son Père, qu'il choisit volontairement de s'abaisser lui-même, de s'humilier encore plus bas, de servir encore les siens, de les aimer, de mettre le comble à leur amour, à son amour pour eux. Et on le voit bien hein, ailleurs dans les Proverbes, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité, l'abaissement, précède la gloire. Et ça, ça concerne directement Jésus. Ailleurs aussi, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse du cœur, richesse de ses choses morales, la gloire et la vie. En conclusion, suivons les traces du Maître. Ce chemin-là, il n'est pas dur. Si on veut effectivement s'humilier nous-mêmes, si on ne veut pas une place dans le monde, il n'est pas dur. Si on ne veut pas avoir comme le voisin, il n'est pas dur. Si on ne veut pas envier ses frères, il n'est pas dur. Parce que notre place, elle est douce. Le joug, il est doux. Il ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, le Seigneur. Il ne nous demande pas d'être des surhommes, d'être des exemples parfaits. Ce n'est pas ça qu'il nous a demandé. Ça peut arriver qu'on se mette en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça peut arriver qu'on tombe, mais le Seigneur est là pour nous redresser. Si quelqu'un a péché, qu'il vienne à lui. Voilà, le chemin, il n'est pas compliqué. Ça ne sert à rien de traîner encore des choses de notre ancienne vie. Il y a eu une création nouvelle. Dieu a décrété une nouvelle naissance. Ces choses anciennes, elles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne sert à rien de traîner ça. Il faut les laisser, ces valises-là. C'est trop lourd pour nous. On ne va pas arriver à marcher tranquillement. Et là, on voit Jésus qui est venu comme un simple homme, qui est apparu comme un simple homme sur cette terre. Et pourtant, il était Dieu, hein. Fils de Dieu. Il avait un palais dans le ciel, il n'y avait personne pour le recevoir quand il est né sur la terre. Il est né dans une crèche, dans une étable. Il était le roi que l'on sert, il est venu comme un serviteur, un simple serviteur, le serviteur de l'Éternel. Il se reposait de ses œuvres dans le ciel, et il est venu pour travailler comme un charpentier. Il avait tout, richesse et gloire, et pourtant dans ce monde-là, il fallait que des femmes subviennent à ses besoins. Il n'avait rien, même pas un oreiller où poser sa tête. Pas de maison, pas d'abri, mais il marchait, selon la volonté de son Père. Pareil, il était le prince de la vie, et il acceptait l'humiliation suprême. Vous savez, sur les croix, parfois, quand on voit sur les crucifix, on voit un corps qui est là et qui a un pagne. Mais l'humiliation, elle était pire que ça, parce que l'Écriture nous en parle. Les crucifiés, ils étaient accrochés nus. Malheur à celui qui est pendu au bois. Et en plus, ils étaient tout nus. Je suis nu comme un ver, nous dit l'Écriture. Voilà l'humiliation suprême. Imaginez ce Jésus suspendu, là, sur la croix. Et en fait, qui était tout nu, à découvert devant ces hommes qui l'avaient crucifié. Voilà ce que le prince de la vie a accepté de souffrir pour que nous, on ait la vie. Et puis, il y a des promesses de Dieu extraordinaires pour les humbles, ceux qui veulent s'attacher aux petites choses comme ça. Il relève les humbles. C'est tout dans l'Écriture. Hein. Il voit les humbles, c'est-à-dire qu'il a leur regard sur eux. Il fait grâce aux humbles, alors que Dieu résiste aux orgueilleux, ça on le sait. Hein. Il est présent avec les humbles. Il leur enseigne aussi son chemin. Ça concerne les humbles aussi. Hein. Si on veut vivre notre vie comme on veut, on n'aura pas d'enseignement. Il leur montre aussi sa tendresse. Ça, c'est étonnant aussi. Hein. On se rappelle de la veuve de Sarepta, là, qui n'avait plus rien et ramassait du bois, et puis elle allait préparer le dernier petit pain avec le reste de farine, le reste d'huile, et puis avec son fils, elle allait mourir. Et en fait, il y a le prophète Élie qui se pointe et qui lui dit, avec ça, tu me prépares déjà pour moi, pour le serviteur de l'Éternel, tu me prépares un gâteau. Il n'y avait plus que ça. Hein. Et elle l'a fait. Elle a cru à cette parole reçue de la part de Dieu. Et en fait, pendant toute la famine, qui a duré plusieurs années, dans le petit pot de farine chez elle, dans le petit pot d'huile, il n'a jamais rien manqué. Jusqu'au moment où la famine s'est arrêtée. Quand il y a l'abondance, le miracle de Dieu s'arrête. Forcément, les choses sont là. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut ? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu, à ta place, tout simplement, pas après pas. N'allons pas s'inventer des appels de Dieu en se disant « moi je serai missionnaire en Afrique, en Asie ». Est-ce que la mission ne commence pas avec le voisin d'à côté ? Est-ce que la mission ne commence pas avec les collègues, avec ta famille ? Il y a une promesse de Dieu, tu seras sauvé toi et ta famille. Dernière fois, là sur Châteaubriand, mardi, il y avait Bastien qui était là, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, ils sont peut-être en vacances. Et puis, on faisait le tour un petit peu pour les besoins, pour prier, quoi. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, dans la famille, alors toi, ils sont tous convertis. Je lui dis, toute ta famille. Ah non, il reste les cousins. Ah, je lui dis, alléluia, on va prier pour les cousins. Toi et toute ta famille. Oui, ça ne s'arrête pas, notre petit cercle familial. Dieu veut sauver tous les hommes. Dans Philippiens, ça nous concerne directement, c'est cette vie que l'on doit considérer. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, c'est-à-dire notre position à nous, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Et là, on est tranquille. On n'a pas besoin de marcher sur les têtes, on est tranquille dans cette position-là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. C'est un choix. Il a choisi de s'humilier, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si on veut être heureux, il faut suivre l'exemple du maître. Sur la terre, il faut qu'on soit comme lui. Si on veut que dans le ciel, on soit comme lui aussi. Il a marché humble, avec douceur, sans position, sans chercher à... Il n'a pas crié, hein, nous dit même l'Écriture. Voilà, si on marche comme lui, alors on sera glorifié aussi comme lui dans le ciel. Laissons-nous attirer par les petites choses, soyons trouvés fidèles dans les petites choses. Pour être agréable à Dieu, il ne faut pas faire des grandes choses. Il faut faire des petites choses. Jour après jour, instant après instant. On le voit bien, hein, combien de fois dans le secret, concernant l'aumône, concernant le jeûne, concernant la prière. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est ce qui est fait dans le secret qui est important. C'est ce qui est invisible qui est important. Pourquoi notre Dieu est invisible ? Mais c'est parce qu'il est tout. C'est lui le réel. Ce que l'on voit, c'est absolument pas réel, en quelque sorte. On voit très peu de choses, mais ce qui est vraiment réel, c'est les choses invisibles. Donc quand on prie, c'est invisible, mais quelle puissance, quelle force de la part de Dieu. Et puis il y a aussi une promesse collective. On le chante parfois, on trouve ça dans le livre des Chroniques. C'est Dieu qui répond à Salomon, à la prière de Salomon. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Ça, c'est la promesse de Dieu. Si mon peuple, ce peuple qui est là comme ça, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. C'est parfait, c'est fait. Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Et combien la France, elle a besoin d'être guérie. On a un pays là qui est en train de partir à volo, mais comme toutes les nations. Hein. Mais si le peuple de Dieu s'humilie, oui Seigneur, on sait qui nous sommes, on sait qu'on n'est pas riche, c'est pas vrai. On a beau avoir des beaux bâtiments, on n'est pas riche, on est pauvre. on n'a plus assez de dons spirituels, on n'a plus assez de miracles. Seigneur, faut qu'on s'humilie, faut qu'on s'humilie, qu'on prenne la place devant Dieu, afin que lui soit glorifié, qu'on cherche sa face. Et alors là, il y a des merveilleuses promesses pour notre pays. Parce qu'en fait, Dieu dit qu'il sera là, qu'il entendra nos prières, qu'il nous exaucera, qu'il mettra là son nom, qu'il aura ses yeux et ses oreilles ouverts dans ce lieu. Ça, c'est la promesse de Dieu, si son peuple est comme ça. Donc, que l'on puisse saisir ces choses, parce que si on veut que la France change de direction, qu'il y ait dans l'évangélisation, non pas du succès, mais des âmes qui se convertissent vraiment, qui choisissent le Seigneur Jésus, alors il faut que nous, on soit à notre place. Et notre place, ce n'est pas en hauteur, notre place, c'est en bas. C'est là que notre témoignage, il aura de la valeur, il aura du poids. Je me rappelle ce dernier petit témoignage, et c'est comme ça, je pense, que mes parents ont été touchés. J'étais jeune converti, et puis je revenais de la Réunion, c'était assez tard le soir. Et puis, ils avaient invité beaucoup de monde. Il devait y avoir au moins 20 ou 25 personnes. Et puis, à l'époque, ils n'avaient pas de lave-vaisselle. Moi, je n'avais pas mangé là, mais je me suis dit, je vais faire la vaisselle. Pas pour eux, mais pour Dieu. Pour mon Seigneur, je vais faire la vaisselle. J'ai pris cette décision. Ce n'était pas grand-chose. Hein. S'humilier pour faire la vaisselle, ce n'est pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas comme laver les pieds de quelqu'un. Hein. Ça, ce serait pire. Hein. Mais là, donc j'ai fait la vaisselle. Et je crois que la belle-maman, elle a été touchée par ça. Elle est venue me dire merci, mais on sentait qu'il y avait autre chose dans sa voix. Et qu'est-ce qui dit que Dieu n'a pas commencé à toucher son cœur, là, à cause de ce petit geste de rien? Alors que Dieu nous bénisse, qu'on se laisse attirer non pas par ce qui brille, mais par les choses qui sont humbles, qui sont petites, qui n'ont peut-être pas de prix aux yeux des hommes, mais qui sont d'un grand prix aux yeux de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Amen. Amen.